John Marr est un court récit publié avec d'autres poèmes en 1888 à New York, en 25 exemplaires à compte d'auteur. L'auteur en question est depuis 3 ans à la retraite de son poste d'inspecteur des douanes, poste occupé pendant 19 ans, et retraite permise à la suite d'un héritage familial de son épouse. Il décédera 3 ans plus tard à l'âge de 72 ans. Herman Melville, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un romancier américain principalement connu de nos jours pour son roman Moby Dick, la fameuse chasse à la baleine blanche menée par le capitaine Ahab et son équipage du Pequod, œuvre allégorique et pétrie de poésie. Il est également connu pour d'autres œuvres à l'audience déjà plus restreinte, telles que Bartleby, le Scribe ou Billy Budd et d'autres encore. Sa carrière littéraire, commencée sous les heureux auspices du succès en 1845 avec la publication de récits autobiographiques relatant son expérience de marin autour du globe, s'interrompra quelques 12 années plus tard à la suite des échecs commerciaux successifs de ses romans, y compris Moby Dick, roman qui lui valent aujourd'hui la réputation d'être un écrivain majeur de la littérature nord-américaine. À l'écoute de John Marr, nous comprenons que nombre d'éléments de la vie de son auteur sont transposés dans l'histoire de son personnage. Mais ce qui fait, selon nous, la beauté singulière de ce court récit réside dans le sentiment que nombre d'entre nous pouvons en faire tout autant. Il appartiendra à l'auditeur ou à l'auditrice d'en juger. Malgré les distances du temps, l'histoire se déroule dans la première moitié du XIXe siècle. Malgré les distances de l'espace, l'action se situe, elle, sur ce qui a été appelé la frontière lors de l'expansion vers l'ouest des conquérants États-Unis d'Amérique, et qui, aujourd'hui, doit correspondre à ce qu'on appelle le Midwest américain. Et enfin, malgré les distances de l'expérience, où on pourrait reprendre à notre compte une citation du texte évoquant l'existence de l'océan comme une vague rumeur traditionnelle. Malgré toutes ces distances, ou bien grâce à elles. John Marr, né en Amérique, de mère inconnue vers la fin du siècle dernier, et de l'enfance à la maturité, marin sous divers pavillons, se voyant finalement dans l'incapacité de poursuivre une carrière maritime à cause d'une vilaine blessure reçue en se battant au corps à corps avec les pirates des Keys, se retire là-dessus à terre pour gagner sa vie en exerçant un emploi moins actif, non sans apporter avec lui son humeur vagabonde acquise en courant les mers. Après une série d'exodes, allant d'abord comme voilier de port en port, puis s'aventurant à l'intérieur des terres comme charpentier pour les gros ouvrages, il s'installe finalement en cette qualité vers l'an 1838, dans ce qui était alors une prairie de la frontière, avaricieusement parsemée de boquetaux de chênes et, moins généreusement encore, des maisons en rondins d'une petite colonie récemment venue d'un de nos plus anciens états de l'intérieur. Là, mettant un terme à ses vagabondages, il se marie. Avant qu'il soit longtemps, une épidémie. Le fléau des nouveaux établissements implantés sur ces terres grasses et dont la livrée jaunâtre ne manquait jamais, le moment venu, d'affecter le teint d'un trop grand nombre de ses colons, une épidémie emporte sa jeune femme et son petit enfant. Dans un unique cercueil, assemblé de ses propres mains, ils sont commis à la terre avec de maigres rites. Un tertre de plus, encore que bien menu, dans la vaste prairie, non loin des lieux où les bâtisseurs de tumulus, d'une race qu'on ne peut évoquer que par conjecture, avaient laissé leurs poteries et leurs eaux, une seule et même argile, sous une étrange terrasse de forme serpentine. Sa personne, respirant une honnête tranquillité, basané et le sourcil noir, avec des yeux qui pouvaient s'adoucir ou jeter des éclairs, mais jamais se durcir, tout en trahissant parfois une profondeur mélancolique. Cet homme sans famille avait des affections qui, une fois placées sur quelque objet, ne s'en pouvaient déloger aisément pour être reportées ailleurs. Parvenu maintenant au milieu de sa vie, il décide de ne plus quitter désormais le sol où reposent les seuls êtres qui lui aient jamais été unis par un lien d'amour familial. Il loue sa maison de rondin à un nouveau venu tout heureux de l'aubaine et cohabite avec la maisonnée. Bien que le sentiment aigu de sa perte s'adoucisse avec le temps, le vide demeure en son cœur. Volontiers le remplirait-il ce vide, s'il se pouvait, en cultivant des relations sociales plus étroites que devant avec une population dont il se propose de partager le sort jusqu'au bout. Des relations surajoutées à ce simple lien de tous les jours qui vient de ce que l'on partage les mêmes vicissitudes extérieures et qui fait de l'aide réciproque quelque chose qui va de soi. Mais en cela, et sans que personne soit à blâmer, il se voit contrecarré. Pour avoir entre eux un commerce plus familier, les hommes qui ont une tournure d'esprit pratique doivent converser en toute communauté d'expériences et sur des sujets relevant de la vie réelle. Mais qu'il s'agisse d'événements ou de personnes, on ne peut pas parler toujours du présent, moins encore spéculer toujours sur le futur. Il faut nécessairement revenir au passé qui, pour la plus grande masse des hommes, là où il se trouve constitué de manière personnelle un héritage commun, fournit à la plupart des natures pratiques la base d'une communion sympathisante. Or, le passé de John Marr n'était pas le passé de ses pionniers. Leurs mains avaient tenu les mancherons d'une charrue, les siennes la barre d'un navire. Ils ne connaissaient que leurs pareils, que leurs propres usages. Alors qu'à lui s'était révélée pour une part la diversité du globe. Le champ de la compréhension et en conséquence la portée de la sympathie était inévitablement si limitée chez cette catégorie particulière des migrants autochtones, laboureurs héréditaires de la glèbe, que l'océan, connu seulement de leur père par ouï-dire, n'était plus guère maintenant pour eux, enfoncé plus avant encore dans les terres, qu'une vague rumeur traditionnelle. C'étaient des gens rassis, rassis par accoutumance à de monotones rudesses, ascétiques par nécessité non moins que par inclination morale, presque tous de religion sincère, quoique étroite. Ils faisaient preuve de bonté au besoin, à leur manière. Mais pour un homme habitué, comme John Marr ne pouvait pas ne pas l'avoir été dans ses anciennes escales sans foyer, au laisser-aller sans façon des associations de tavernes qui offraient le soir des divertissements à bon compte dans certains vieux ports accueillants de l'époque, et plus habitué encore à la camaraderie en mer des marins de ces mêmes temps, quelque chose faisait défaut. Ce quelque chose était la jovialité, la fleur jaillie du sentiment de joie que la vie porte plus ou moins en elle. Cela, leur lot ne pouvait l'apporter à ces travailleurs qui souffraient de l'accablante malaria, à ces hommes pour lesquels il n'était jamais de vacances et qui avaient trop de droiture pour feindre, quand bien même ils en auraient eu l'art ou le désir, et ce n'était nullement le cas, ce qu'ils n'éprouvaient pas vraiment. À l'égrenage du maïs, la moins austère de leur réunion, le marin, au cœur solitaire, cherchait bien à détourner ses pensées de la tristesse et à capter en quelque mesure celles des autres en abordant des sujets éloignés, des contrariétés et des épreuves qui les entouraient, glissant tout naturellement vers une anecdote ou vers un tableau de la vie en mer. Mais il ne tardait pas à se replier sur lui-même et à tomber dans le silence en l'absence de tout encouragement à poursuivre. À l'une de ces réunions, un homme d'un certain âge, un forgeron qui, aux assemblées du dimanche, était un prédicateur zélé, lui dit « Ami, nous ne connaissons rien à ces choses-là par ici.
pareil, absence d'écho chez ses semblables alors qu'ils étaient à l'écart de la vie factice et, de par leur profession, peu aidés à cette époque par les machines. Proches parents, pour ainsi dire, de la nature, semblaient à John Marr ne faire qu'un avec l'apathie de la nature elle-même, telle qu'elle lui apparaissait dans une prairie où nul autre que les anciens bâtisseurs de tumulus n'avaient encore laissé de marques durables. Le reste des Indiens environnants, presque tous exterminés au cours de leur guerre récente et décisive avec les troupes régulières des Blancs, guerre livrée par les hommes rouges pour défendre leur sol natal et leurs droits naturels. Le reste des Indiens environnants avaient été contraints d'occuper des territoires déserts à peu de distance au-delà du Mississippi. Déserts alors, mais qui sont maintenant le siège de municipalités et d'États. Auparavant, les bisons qui ruisselaient, innombrables, en hordes processionnaires, ou qui paissaient comme un front de bataille sans fin à travers ces vastes pâtures aborigènes, avaient battu en retraite, diminué en nombre devant les chasseurs, race distincte dans l'ensemble des pionniers agricoles, bien qu'ils en fussent généralement l'avant-garde. Ce double exode de l'homme et de la bête avait fait de la plaine un désert. Verdoyant ou fleuri, certes, mais presque aussi délaissé que l'aubi sibérien. Hormis le coq de prairie, débusqué parfois de sa cachette dans l'herbe luxuriante, et, à la saison des migrations, les pigeons volant très haut en multitudes denses qui éclipsaient le jour comme le passage d'une nuée d'orage, hormis ce que je viens de nommer, comme il n'y avait pas de grands bois ni, par conséquent, de sous-bois, les oiseaux étaient étrangement peu nombreux. Une complète immobilité régnait des heures durant, ininterrompue, sur cette prairie. C'est le lit d'une mer asséchée, se disait le marin sans ami, qui n'était point géologue. En s'interrogeant rêveusement au crépuscule, sur les ondulations figées de cette immense étendue alluviale, sans autre bande que l'horizon où il cherchait en vain le mouvement qui, pour des yeux et des oreilles alertes, anime en tout temps les solitudes visibles de l'abîme. Mais une scène tout à fait différente de celle que l'on a connue peut toutefois les évoquer. Cernée par une bordure plane, la prairie rappelait à John Marr l'océan. Avec quelques-uns de ses anciens compagnons de bord, devenus de vrais potes lors de certaines traversées, il avait fait en sorte, avant cet éloignement ultime et plus poussé encore, d'entretenir une petite correspondance à intervalles irréguliers. Mais de quelque nouvelle que ce fût, de qui que ce fût, à l'instar des autres colons, il était maintenant coupé. Complètement coupé, à l'exception de celle que pouvait apporter sur les flots herbeux la dernière venue des goélettes de la prairie, terme vernaculaire qu'on appliquait alors dans ces régions aux chariots des migrants surmontés d'une haute toile à voile arquée qui parcourait ces vastes campagnes. Il n'y avait pas encore de bureau de poste à porter, pas même de rudimentaires petites boîtes aux lettres à couvercles et à gonds de cuir, juchées à intervalles appropriés le long d'un verdoyant chemin solitaire, sur un solide pieu servant de perchoir aux oiseaux et qui, plus tard, la frontière s'avançant sans relâche, se délabrerait peut-être jusqu'à devenir une stèle moussue attestant que la vie civilisée avait encore une nouvelle limite. Vie dont on peut dire que, dans l'Amérique d'aujourd'hui, elle ne connaît guère d'autres bornes occidentales que l'océan qui baigne l'Asie. D'un bout à l'autre de ces plaines, surpeuplé maintenant par endroits de villes suropulentes, de ces immenses plaines partagées par ailleurs dans toutes les directions en fermes florissantes, pâles citadins et robustes fermiers étant pareillement, pour une part, les descendants des premiers colons au teint jaunâtre, de cette région qui, voici un demi-siècle, fournissait peu de choses à l'homme pour sa subsistance, mais qui aujourd'hui déverse sur le monde ses surabondantes récoltes de blé, de cette prairie partout entrecoupée à présent de grillages et de barrières, C'est à peine si l'on peut dire qu'à l'époque dont il est question ici, on y reconnaissait seulement une route. Aux voyageurs qui parcouraient de grandes distances, les bosquets de chênes, largement espacés et variables d'étendue comme de forme, ainsi que les récents établissements, plus espacés encore, offraient quelques repères. Mais autrement, ils se guidaient sur le soleil. Au début de la mi-été, même lorsqu'il ne s'agissait que d'aller d'un campement de rondins à l'autre, trajet qui pouvait prendre quelques heures ou une bonne partie de la journée, le voyage tenait beaucoup de la navigation. Dans certaines dépressions plus riches, situées entre les longues lames vertes et graduées, lisses comme celles d'un océan encalminé qui reçoit et soumet à sa tranquillité sereine la houle volumineuse soulevée par quelques lointains ouragans des jours précédents, on saisissait le premier signe que des étrangers approchaient, soit à bonne distance, comme une voile lointaine en mer, à la toile d'un blanc éclatant qui abritait le chariot lui-même se faufilant à travers la végétation touffue qui le cachait, soit, à défaut de cela, lorsqu'il était tout proche, aux oreilles de l'attelage qui pointait au-dessus de grands lys tigrés ou même au-dessus d'herbes plus hautes encore. Elle était certes luxuriante, cette terre sauvage, mais pour qui l'habitait, un ami laissé ou que ce fût dans le monde, n'était pas seulement hors du champ du regard, il semblait être absent de l'existence. Bien que les compagnons de bord de John Marr n'eussent sans doute pas tous quitté cette vie, néanmoins, en tant que sujet de méditation, ils étaient pareils aux fantômes des morts. À mesure que le sentiment accru de son environnement le livrait de plus en plus à des ruminations rétrospectives, ces fantômes, conjointement à ceux de sa femme et de son enfant, devenaient des compagnons spirituels, perdant quelque chose de leur imprécision première pour acquérir finalement comme un semblant de vie muette. Et ils étaient éclairés par cette auréole de lumière qui entoure tout objet des affections d'antan auxquelles un cœur imaginatif aspire profondément à être réuni. Il invoque ceux qui peuplent ainsi ses visions, s'efforçant en quelque sorte d'entrer en communion verbale avec eux, ou, sous l'empire d'une illusion plus forte encore, leur reprochant leur silence. Vous n'avez pas changé depuis les quarts de nuit, les gars. Alors pourquoi ne rien me dire ici à moi, votre copain de quart du temps jadis? La mer noircissait-elle en ce temps-là, vous éleviez la voix et vous clamiez bien clair dans la tourmente. Ils sont joyeux, le tourmentin, vous entonniez. La vie est donc tourmente? Va pour la tourmente. Prenant les choses, comme le fait du sort, pareils à des enfants, vous qui courriez le monde, ne tenant pas trop chèrement à cette vie que vous-même teniez entre vos mains, pétrels effleurant les quatre océans à tire-d'aile. À terre, franches alouettes. Bannis de ma mémoire à la légère? Oh non. Vous n'êtes pas comme ces airs que l'on dédaigne lorsque le cœur s'accorde à de plus fiers accents. Fréquemment, près de moi, jamais ne vieillissant, votre bon naturel vous gardant toujours jeune. Comme le flot pénètre une crique, un cours d'eau, vous entrez, vous venez me voir, ou bien il semble que vous émergiez d'une mer de visages étrangers, myriades issues de ma mémoire, pour m'envelopper dans un rêve. Je languis comme vous. Mais les radeaux disjoints sous l'effort, leurs rondins se pourront-ils rejoindre? Nous fûmes liés, entrelacés, puis disloqués vers de nouveaux embrassements toujours jetés, algues du golfe à la dérive en haute mer. Mais qu'en est-il si l'on cesse de dériver, lancé par la houle violente en pleine terre? Vous n'en êtes pas moins restés, même à présent que décline le jour, mes compagnons fantômes, flottant autour de moi, silhouette, visage, accroche-cœur, boucle d'oreille, tatouage, barbare du plus simple naturel humain, serviteur de ce monde, mais des moins mondains. Oui, vous m'êtes présents tous et vous m'êtes chers, que vous soyez en mer de Chine ou aux enfers. Où donc, où, matelot marchand, où courez-vous à cette heure dans les rafales rugissantes? Et vous, chasseur de baleines, toujours rivaux, aux trousses du Léviathan, lequel prévaut? Vous, enfin, des vaisseaux de guerre, où cinglez-vous? S'il n'est plus pour vous de tambours qui soudain battent le branle-bas dans le désert des eaux nocturnes, lorsqu'on devine l'ennemi dans les embruns, vos lanternes ruisselantes du passe-avant cherchent-elles toujours à percer l'eau profonde quand vous voyez, glissant sur la planche luisante, un frère piqué dans le noir? Mais vous, copain de batterie sanglé dans la toile plombée, si par le fond où se prolonge votre attente, le perçant tout le monde debout, jamais n'auront le charme qui ensorcelle votre sommeil. Si c'est en vain que la trompette vous appelle, que le canon qui tonne vous implore. Un battement de cœur tous vous rassemble. Oui, un seul battement au cœur même du cœur vous rassemble. Pour vous saisir, vous retenir, pour vous voir au drisse encore, pour réentendre votre cœur.
La traduction de John Marr est celle de Pierre Léris, publiée chez Gallimard dans une édition bilingue dans la collection NRF sous le titre « Poèmes d'hiver, 1876-1891 ». La musique en ouverture est l'extrait d'une improvisation de Charlie Mingus au piano intitulée « Myself when I am real », tandis que l'extrait musical qui ponctue les silences des étendues désertes de la plaine est l'œuvre du compositeur Michael Nyman, One Hundred. Un dernier petit galet du poète avant de se quitter. Au creux des liquides collines, où vont courant les longues crêtes bleues, nul écho ne nous flatte ni ne nous émeut, car les flots n'en ont point, n'ayant rien qui renvoie aux hommes les accents qu'ils reconnaîtraient leurs, le rêve de leur tête ou l'espoir de leur cœur.